pour travailler des moyens, pour travailler l'urgence de France en colère, l'urgence de France en colère, continue.
À l'hôpital, les urgences connaissent en ce moment une grève longue, très longue. Elle a commencé mi-mars et malgré les annonces de mesures en faveur des services le 14 juin puis le 9 septembre, elle continue. Il y a quelques jours, un syndicat de médecins, l'AMUF, a rejoint le mouvement initié par les paramédicaux, infirmiers, aides-soignants et brancardiers.
Vous avez parlé évidemment de la souffrance des soignants, je ne la nie jamais.
Les gestes de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sont au mieux considérés comme insuffisants, au pire comme provocateurs. Le mouvement est parti des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, au nord-est de Paris, dont les personnels se sont réunis en collectif. Il échappe donc, et c'est une de ses caractéristiques, aux organisations syndicales traditionnelles. Près de la moitié des services d'urgence des établissements publics français sont désormais concernés. Comme les grévistes sont réquisitionnés, c'est une grève qui ne se voit guère et qui n'affecte pas les soins apportés aux patients. Mais les grévistes, eux, sont déterminés et réclament augmentation de salaire et amélioration des conditions de travail.
On fait comme on peut, monsieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Vous n'attendez pas parce qu'on est en grève. On est en grève parce que vous attendez. C'est parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et c'est pour ça, monsieur, qu'on est en grève.
À l'écart des manifestations, des tribunes et des slogans, Géraldine Allot est allée ausculter en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus déshérités de France, un service d'urgence qui enregistre 55 000 passages par an, un chiffre qui progresse de 6 à 8% chaque année. Un service où on expérimente des solutions.
Et vous savez à quel point j'aime les brancards dans le couloir, donc pas de brancards dans le couloir comme d'hab. Ok ?
Rendez-vous avec Géraldine Allot à l'accueil des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
On est devant l'entrée des urgences et la couleur est annoncée tout de suite hein, parce qu'il y a une grande banderole urgence en grève et puis des petits panneaux un petit peu partout. Buzyn vient faire les soins. Effet notable, il y a un vigile à l'accueil des urgences de l'hôpital de La Fontaine.
Je pense que je me le fais passer.
Il manque un bout ou pas? Il manque un bout de doigt ou pas? Ça, je vous le remets. Mmh. Remettre aux infirmières, remettre ce que vous appelez pour le médicament, ça va pas à gauche.
Oui.
Ça, vous pouvez le rendre.
Une fois que les patients ont été enregistrés à l'accueil, ils arrivent ici, à l'IOA. C'est l'infirmière organisatrice de l'accueil. En l'occurrence, ce matin, c'est un infirmier. Et en fait, ici, c'est un centre de tri entre les patients qui doivent être vus très rapidement et ceux pour qui ça peut attendre.
Nico, hop.
Pardon. Ah.
Comment vous vous appelez?
Nicolas.
Et vous êtes?
Infirmier.
Vous faites donc un examen un peu général de la personne. Comment vous faites pour vous rendre compte de l'urgence?
On pose la question, pourquoi, les motifs pourquoi ils sont venus, et puis leurs antécédents, ce qu'ils prennent comme médicaments, leur allergie, et par rapport à ça aussi, à l'attention.
Et vous rentrez tout dans l'ordinateur?
On rentre sur l'ordinateur, et comme ça, après, bah, les docs ou les autres infirmières ou les aides-soignants, ils peuvent voir pour quelles raisons ils sont venus aux urgences.
Un patient qui arrive.
Alors, monsieur vient pour douleur flanc gauche depuis hier.
Pas de problème de diarrhée, pas de constipation, non, pas de vomissement.
Regardez le bras tendu, parce que sinon ça prend pas d'attention. Merci.
Pas d'allergie, pas d'antécédent.
La douleur, vous l'estimez à combien entre 0 et 10 hein. 0 pas de douleur, 10 et on vous coupe la tête quoi. Vous avez un petit peu mal, moyennement mal ou très très mal?
Soyez mal, soyez pas mal.
Et là, maintenant, vous avez
maintenant, pas mal.
Vous ne voulez pas de doliprane? Pour l'instant, c'est pas besoin.
Non. Prenez vos affaires, vous avez patienté juste derrière et mes collègues vont vous appeler dès qu'un box sera libre.
Ok, merci.
D'accord, mon courage.
En fait, ce qu'on voit depuis ce matin, depuis qu'on est avec vous, c'est que pour l'instant, les patients sont des patients qui pourraient relever de la médecine de ville.
Tout à fait.
À part la dame qui est alitée de 75 ans.
Puis encore, elle est en maison de retraite, voilà quoi. Il y a des médecins en maison de retraite. Hein. Est-ce qu'eux aussi, ils sont débordés? J'en sais rien.
Vous faites grève, vous, personnellement?
Ouais.
Depuis combien de temps?
Je sais pas, c'est depuis le début quoi. Au mois de juin, je pense, c'est ça.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous?
Un petit ras-le-bol, des conditions de travail.
À quel niveau? En termes de rythme de travail, beaucoup de passages, de toujours...
Le passage, les personnes aussi, la population quoi. Parfois c'est un peu compliqué. Soit on se comprend pas, soit ils viennent vite agressifs. Ils veulent vite les choses tout de suite, parce qu'on est au KFC, quoi. Donc on arrive, on veut un truc, c'est tout de suite, quoi. Donc c'est pas ça, il faut attendre.
Ah, vous pensez que les gens se croient au KFC, ils veulent de l'immédiateté?
Il y a beaucoup qui soient. Enfin, je connais pas le KFC, mais voilà, ils veulent du fast-food, quoi. Ils veulent du rapide, quoi.
Vous êtes accompagné, donc, monsieur, vous appelez comment?
Mathieu.
Et vous êtes?
Aide-soignant aux urgences depuis un peu plus d'un an et demi, maintenant.
Vous aussi, vous êtes en grève?
Oui. Parce qu'en fait, on vient aux urgences, on travaille dans ce métier-là, c'est pas pour tout, juste travailler, c'est parce qu'on a une conviction derrière, on aime ce métier. Et le voir se dégrader, les prises en charge dégradées, c'est pas quelque chose de concevable pour nous. On a moins de moyens, il y a des endroits où il y a très peu de médecins, on n'arrive pas à recruter, et le salaire aussi qui suit pas à force. Il y a la dégradation aussi au niveau, vous allez peut-être pouvoir l'entendre, au niveau de la psychiatrie, on n'a pas de réelle unité de psy sur l'hôpital.
Donc vous avez les patients psy qui viennent aux urgences?
Exactement. Ah, vous pouvez m'entendre.
Dame qui fait une crise.
Voilà.
Donc Mathieu, vous êtes aide-soignant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le code couleur? C'est important ici, le code couleur.
Le code couleur est très important parce que ça va nous aider pour la prise en charge. Donc on va partir du plus d'urgence vraiment vitale. Donc ici, c'est codifié en rouge. Donc généralement, c'est du déchocage. Donc c'est comme une mini-réanimation. Après, on a du orange. Ça a pris dans le maximum 20 minutes. Le jaune, c'est prise en charge maximum 1 heure. Le vert, ce qui va être un peu moins grave, comme un peu la traumatologie. Il faut compter à peu près 1h30, 2h. Et après, au-delà, c'est ce qu'on appelle les consultations, en bleu. Donc là, c'est des patients qui ne sont pas triés ici, ils vont retourner en salle d'attente et un médecin va les appeler dès qu'il pourra, en fait.
Donc un arrêt cardiaque, j'imagine que c'est rouge.
C'est ça, tout à fait.
Une crise d'asthme.
Ça dépend, vous avez plusieurs crises d'asthme. Vous avez des crises d'asthme sévères, donc ça, généralement, ça va être du orange.
Une appendicite, suspicion d'appendicite.
Ça peut passer du jaune à l'orange.
Et si je me suis tordu la cheville en faisant mon footing?
C'est du vert. Si vous êtes tordu la cheville là, dans la journée, c'est du vert. Si vous êtes tordu la cheville il y a 3 mois, ça sera la consultation.
C'est du bleu.
C'est ça.
On peut dire que le bleu, c'est la bobologie?
Tout à fait, oui. C'est un peu du commun, en fait. C'est un rhume, un renouvellement d'ordonnance, par exemple, aussi. On en a souvent.
Ça, c'est du bleu.
Voilà.
Non urgent.
Non urgent.
Donc là, il y a un autre patient qui vient d'arriver.
Vous avez des allergies, monsieur? Des allergies? Vous parlez français?
Vous toussez beaucoup?
Ça y est, mon
coup. Wait over there, ok? Je vais aussi le docteur.
Vous l'avez classé, ce monsieur qui tousse, en quelle couleur?
En couleur jaune, suspicion de tuberculose. Et voilà quoi.
Le rythme est soutenu ici. Hein.
Et encore, c'est calme là. Hein. Là, c'est calme. Là. Des fois, on jette les gens.
Un instant.
Voilà, donc il faut jouer avec les ambulances, les pompiers qui font toc toc, et voilà.
Les ambulances là.
Donc là, ce sont les pompiers qui arrivent avec un patient en brancard.
Ok, ça marche.
Les urgences ont beau être en grève, c'est une grève symbolique, on le répète, parce que le personnel gréviste est assigné tous les matins, c'est-à-dire réquisitionné. Donc en gros, tout le monde travaille et on voit les aides-soignants, les infirmières courir partout pour aller voir les médecins, pour faire passer des examens, pour prendre ce qu'on appelle les constantes, c'est-à-dire la tension, la glycémie. Et on entend toujours ces petits bips caractéristiques. Pourquoi vous êtes ici, vous, aujourd'hui ?
Une inflammation au pancréas.
Vous êtes arrivé il y a combien de temps ?
Je suis arrivé hier soir. Jusqu'à maintenant, je suis encore assis ici.
Dans cette salle ?
Non, j'étais dans une chambre. Je suis passé au scanner, j'ai fait tous les bilans. Et là, j'attends ici, le temps que je trouve une chambre.
On vous a mis là en attendant d'être hospitalisé ?
C'est ça.
Ça fait combien de temps, du coup, que vous attendez ?
Depuis 23h30.
Hier ?
Ouais.
Là, il est 13h.
C'est un peu long, mais on s'y fait. Ils font de leur mieux, mais ils sont en manque d'effectifs. Donc on peut rien leur dire, on peut rien leur reprocher. C'est pour ça que j'attends gentiment, ils sont gentils, ils sont aimables. Donc je vois pas pourquoi moi je vais les perturber dans leur travail.
Mathias Vargon, vous êtes le chef des urgences.
Oui, oui.
Quand très longue attente il y a, c'est dû à quoi ?
Oui, bah déjà, il attend depuis hier 23h. Alors, pas tout à fait, puisque il y avait des examens qui ont été faits. Donc, il n'attend pas depuis hier 23h. Il attend depuis ce matin. Mais c'est pas normal. Il devrait monter. Enfin, vous retrouvez-vous sur un brancard et vous verrez que c'est long. Non, il doit y avoir de la fluidité. Alors, parfois, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas de lit. Mais quand on a des lits, tout doit se mettre en ordre pour que les patients montent. Le service, il ne doit pas avoir de patients sur des brancards dans les couloirs. Je considère que les box doivent être prêts à recevoir des nouveaux patients. Et donc, pour ça, cette fluidité, on l'a organisée en interne. Et le personnel médical et le personnel paramédical se plient en quatre, comme vous avez vu, pour réorganiser le service. Mais derrière, il faut aussi que le reste de l'hôpital suive. Ce n'est pas le cas toujours. Ici, ça suit. Mais ça ne suit pas forcément au même rythme que les urgences. La radiologie suit aussi, mais pas forcément au même rythme que les urgences. Cette nuit, par exemple, ce matin, on attendait plusieurs scanners. Alors, c'est vrai que le radiologue, lui, travaille le lendemain et qu'il n'a pas forcément envie de faire des scanners qui peuvent attendre. Sauf que nous, on attend le résultat du scanner et en fonction du résultat du scanner, le patient peut partir. Donc, on ne va pas hospitaliser un patient juste pour attendre un scanner. Et donc, on voit bien que ça recule le temps. Dans la journée, nos examens s'intercalent avec d'autres examens. Nous, on n'a pas de scanner dédié aux urgences. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a pris la décision, alors il faut qu'on prenne la décision et les staffs qu'on fait servent à prendre des décisions parce que parfois les médecins oublient de prendre des décisions. Et quand on a pris la décision, il faut qu'ensuite le patient puisse aller rapidement dans un lit d'hospitalisation. Et il y a beaucoup d'obstacles administratifs, organisationnels qui font que le patient peut attendre des heures avant d'aller dans un lit qui est parfois disponible.
Est-ce que vous manquez de lits ?
Alors, dans notre hôpital, on ne manque pas trop de lits. En fait, le manque de lits, c'est compliqué parce que c'est de la moyenne. Donc, en moyenne, on ne manque pas tant de lits que ça. En fait, ce dont on manque, c'est de la flexibilité dans des lits. Et les patients, on est en France dans un système de type féodal où les lits appartiennent aux spécialités, aux chefs de service. Alors, eux, ils vous disent que c'est mieux pour les patients. Mais du coup, vous ne pouvez pas forcément mettre un patient d'une spécialité dans une autre spécialité. C'est très compliqué. Ça arrive qu'en période de crise, alors pendant la canicule, on y arrive à peu près, les gens sont plus souples. Et encore, certaines spécialités refusent. Moi, ça m'est arrivé qu'une spécialité refuse de prendre des patients, même en période de crise.
Bon, on va chercher les dossiers pour le staff.
Cérémonie du matin.
C'est un chariot rempli de dossiers médicaux.
Ouais, mais en fait, on est informatisé, mais il y a toujours une partie papier, tout ça. Tu prends un dossier bleu ? Salut.
Bonjour.
Je suis mal. Aidez-moi. C'est enregistré ou pas?
Bah oui, c'est enregistré.
J'ai mal. On m'abandonne, on fait rien.
Donc voilà, donc là, c'est un de nos infirmiers qui fait l'idiot. Bonjour.
Donc là, c'est une réunion pour faire le point sur les personnes qui sont aux urgences, hors unité d'hospitalisation.
C'est chiant que personne n'arrive à l'heure.
On y va.
Monsieur...
C'est une douleur abdominale chez un monsieur de...
54 ans, il fait plus jeune en fait. Enfin, il avait 40 ans quand il est arrivé ici, mais il a attendu tellement longtemps que maintenant il en a 54.
Oui.
Mais alors moi j'ai une question là, il y a deux patients. Monsieur et monsieur. Pourquoi ils sont pas à l'UHCD ces patients ? On a la place à l'UHCD, pourquoi les patients restent sur un brancard quoi ? Ça c'est naze. Il faut que tu vois avec les infirmières pour qu'elles les fassent passer quoi. Si les médecins, enfin t'as vu leur tronche là ce matin, ils ont bossé toute la nuit, ils ont la tête dans...
Dans le guidon,
c'est ça. Je redis, les patients jaunes en attente med, c'est une très mauvaise idée. Donc il faut qu'il y ait des box qui soient libres en permanence du côté jaune de façon à installer les patients directement. Et vous savez à quel point j'aime les brancards dans le couloir, donc pas de brancards dans le couloir comme d'hab. Ok ? Bon bah bonne journée à tout le monde. Staff and Demi, à toutes.
Il arrive.
On vous retrouve, Mathias Vargon, médecin urgentiste, chef du service des urgences. Quand vous êtes arrivé ici à l'hôpital de La Fontaine il y a 2 ans, vous avez mis en place une réorganisation. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, la première chose que j'ai fait, c'est effectivement remettre de la discipline dans le service. Le fait que les médecins arrivent à l'heure, par exemple. On a mis en place les réunions pluri-quotidiennes qui permettent à tout le monde de faire le point sur le fonctionnement du service. Et c'est une des pièces majeures de l'organisation. On a mis en place des règles comme la fluidité, comme le fait qu'il faut que les patients ne restent pas dans les box. Chez nous, les patients n'ont entre guillemets, pas le droit de rester dans un box. Il doit y avoir une explication médicale au fait qu'un patient soit dans un box d'examen. Soit il attend de voir un médecin, soit il voit un médecin, soit il attend de voir l'infirmière, et pas trop longtemps, soit il est en train d'être perfusé par l'infirmière. Ça, c'est les seules règles. Après, il y a quelques exceptions à la règle. Les patients qui doivent être isolés pour des raisons médicales. Soit des patients agités, soit des patients qui sont infectés. Ceux-là ont le droit de rester dans un box. Tous les autres patients ne peuvent pas rester dans un box de façon à ce qu'il y ait en permanence des boxes vides, qu'on puisse installer les patients. Ça, c'est une des règles majeures du service. Il n'y a pas de patients dans les couloirs parce qu'on réassoit les patients. La plupart de nos patients vont rentrer à la maison et la plupart de nos patients vont rentrer à la maison sur leurs deux pieds. Or, les patients sur des brancards, c'est des patients qu'il va falloir bouger, qui sont pas autonomes. S'ils ont besoin d'aller aux toilettes, il va falloir les isoler dans un box pour qu'ils puissent pisser dans un pistolet. Donc on relève les patients de manière systématique, ils sont autonomes, ils peuvent aussi parfois aller à la radio tout seuls, et donc ça permet une fluidité du service. Ils sont assis, ils sont pas allongés, ça prend moins de place. Quand vous êtes assis, vous êtes quelqu'un, quand vous êtes allongé, vous êtes un patient. Ça n'a pas du tout le même impact et les examens sont plus faciles avec ces patients-là. Donc oui, on réassoit, pas tous les patients évidemment, mais le plus possible de patients, effectivement.
Quand vous dites qu'il ne faut pas que les patients aux urgences restent bloqués dans les box, où est-ce que vous les mettez ?
D'abord, l'objectif, c'est que nos patients puissent partir le plus rapidement possible. Donc, on essaye de ne pas multiplier les examens complémentaires inutiles aux urgences. Si quelqu'un vient avec une pathologie qui dure depuis un certain temps et qui n'a pas évolué, il peut faire ses examens en ville. Et même s'il est venu aux urgences pour avoir les examens, il ne les aura pas chez nous. Donc ça, ça diminue les temps de passage et vous pouvez sortir immédiatement après. Et puis, les patients qui ont vraiment besoin d'examen, eh bien, la plupart sont assis et ils sont assis dans des salles d'attente où ils attendent d'aller aux examens, puis de revenir dans la salle d'attente. Et puis, une fois que le médecin a vu les examens, ils peuvent sortir ou être hospitalisés.
Ce médecin dynamique, par ailleurs époux de la secrétaire d'État à l'écologie, a donc entrepris, faute de moyens supplémentaires, de réformer le fonctionnement de son service. L'hôpital avait déjà un gestionnaire de lit, un bed manager.
Bonjour, c'est la gestion des lits.
Une fonction qu'Agnès Buzyn veut généraliser.
Une petite question, il y a un lit qui était réservé hier pour une entrée extérieure. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité.
Géraldine Allot a rendez-vous avec cet ancien mailloticien, un homme sage-femme donc, devenu sur le tas un expert en logistique.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis désolé. Je vous ai fait attendre.
Interception.
Allez, ça enregistre déjà. Ouais. Pas
on enregistre tout
sur France Inter.
J'ai pas encore eu le temps de sur les urgences parce que j'arrête pas d'avoir des appels.
Bah, ouais, ça c'est,
parce que ça bloquait un peu en chair ce matin. Donc, tu vois, j'ai.
Ça, tous les matins, ouais.
Voilà. Donc je vais m'y atteler maintenant.
Marc Bouhéry, vous travaillez depuis 32 ans à l'hôpital de La Fontaine et depuis 5 ans, vous êtes ce qu'on appelle un gestionnaire de lit. Ça consiste en quoi, votre travail ?
Alors, le gestionnaire de lit, ça consiste en fait à décloisonner une information qui est la disponibilité en lit d'un établissement et faire qu'en fait, on puisse prendre le patient le plus tôt possible au bon endroit, c'est-à-dire dans le bon service.
En quoi votre travail permet de fluidifier les urgences ?
Parce qu'en fait, ça décharge totalement les urgences d'une activité très chronophage qui est la recherche d'un lit. Nous, on consulte très régulièrement tous les plannings d'hébergement de l'établissement. Et puis, on passe des coups de téléphone. Alors, on essaye de pas trop parceler, de manière à avoir une cartographie de la disponibilité des lits vraiment au fil de l'eau en permanence. Et en fait, cette cartographie, on la transmet aux urgences trois fois par jour.
Est-ce que ça peut arriver que, par exemple, vous avez une patiente qui a fait une crise d'asthme et qui est en observation, et du coup, il y a de la place que en obstétrique, donc vous la mettez en obstétrique?
Non, ça on évite. Après, c'est vrai qu'on considère qu'un médecin est éventuellement quand même polyvalent et qu'on peut faire effectivement des hébergements. C'est ce qu'on a en chirurgie, entre les services de chirurgie orthopédique, viscérale, urologique et spécialité tête-cou. En médecine, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on peut effectivement faire des hébergements temporaires de patients d'une spécialité en attente d'un lit dans une autre spécialité. Bon, l'idéal, ce serait vraiment qu'en France, dans le système hospitalier, qu'on a vraiment hyper spécialisé, donc qu'on a hyper cloisonné, puisque effectivement, on ne comprendrait pas qu'on puisse hospitaliser un col du fémur en maternité. On se retrouve dans une situation où, en restant sur des tout petits périmètres, on se prive de tout un tas de solutions d'hébergement. Si on avait un petit peu plus de services de médecine polyvalents, on aurait effectivement des solutions d'hébergement qui seraient beaucoup plus acceptables.
Et là, vous allez vous heurter au chef de service, non? Mathias Vargon, qu'on a interviewé, le chef des urgences, nous disait parfois les chefs de service se sentent propriétaires de leur lit.
Tout à fait. On sent bien qu'ils sont propriétaires de leur lit, ou du moins, ils ont ce souci de pouvoir rester dans leur spécialité. Ce qui fait que je ne sais pas s'ils sont prêts à accepter qu'on décloisonne complètement et qu'on arrive à des services de médecine polyvalente.
Depuis que votre poste de gestionnaire de lit existe, depuis que le chef des urgences a réorganisé un petit peu le service, le temps d'attente aux urgences, il a baissé de combien à peu près?
Tout passage confondu, on est passé en dessous de la barre des 4 heures en moyenne.
Voilà. Avant, on était à combien?
On était à 5 heures et demie. Après, la problématique des urgences, réellement, c'est que le nombre de consultants aux urgences augmente. Et c'est vrai qu'on est à une époque où, par un clic, vous commandez n'importe quel produit, vous l'avez livré en 2 heures. Certaines générations ne comprennent pas qu'on puisse pas venir aux urgences quand on en a envie. D'autant plus qu'on a l'assurance d'avoir toute une batterie d'examens en 6-8 heures, alors qu'il sera en médecine de ville. Il faudra aller chez le médecin généraliste qui va vous donner une ordonnance pour faire des examens de labo, prendre rendez-vous au labo, aller au labo, récupérer les résultats, retourner voir le médecin généraliste qui va vous prescrire une échographie, prendre rendez-vous d'échographie. Donc ils ont très bien compris que ça leur prendrait 3 semaines. En plus de ça, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de prendre des RTT pour faire tel ou tel type d'examen. Donc pour eux, c'est les urgences. C'est une patientèle, enfin des consultants aux urgences qui supportent pas d'attendre, donc il y a effectivement plus de violence, beaucoup d'incivilité, d'autant plus que c'est un personnel soignant qui est très majoritairement féminin, et donc vous avez une population qui se lâche aussi beaucoup plus. Donc ça, je conçois qu'effectivement les conditions de travail se dégradent de plus en plus.
N'êtes pas de méchanceté.
Justement, parce que moi, je ne suis pas du tout du 93. J'habite sur Paris 9e arrondissement. Franchement, c'est un hôpital de merde, en fait.
Là, c'est pas sympa, ça, pour nous, madame.
Franchement, parce que j'étais attachée, enfin. Tout ça, ils m'ont attachée, parce qu'ils ont cru que j'étais folle dans ma tête, je sais pas. J'ai des antécédents psychiatriques, je sais pas trop quoi.
Vous avez des antécédents psychiatriques, madame, ou pas?
Oui, mais moi, c'est pas pour boire un verre d'eau. J'ai attendu combien de temps? 5 heures. Non, mais il faut arrêter. Et pourquoi il y a beaucoup de personnel et ils font rien? Les aides-soignants et les infirmières, ils sont là. Pourquoi? Il faut arrêter.
Areski,
dites-moi.
Vous êtes infirmier. Oui. Quand vous entendez une patiente comme ça, qui se plaint dans des manières, dans des termes peu amènes, alors qu'on vous voit courir partout, qu'est-ce que ça vous...
Ça fait mal, en fait. On se dit qu'on s'échine, qu'on fait de notre mieux, mais en fait, on voit que les gens de l'équipe de nuit, ceux qui étaient là, ils ont vraiment trimé. On avait trouvé 3 patients qui devaient être hospitalisés, qui étaient encore dans la box, les personnes âgées. Elle était arrivée dans un état d'agitation, donc il fallait peut-être mobiliser plus de personnel pour s'occuper uniquement d'elle. La charge de travail n'a pas permis qu'on s'y attelle de façon plus concrète. Nous, on vient, on prend le service en main à 7h. On n'est pas habilité à lui enlever les attaches parce que si quelque chose arrive derrière, on serait forcément responsable de la chose. Et même le docteur, s'il n'a pas l'accord du psychiatre, ne pourra pas lever la contention. Parce qu'il était arrivé dans un état d'agitation. Et ça, je peux vous dire que ça ne fait pas une belle journée après derrière, quand on, voilà, on arrive, on court partout quand vous le dites, et derrière on se fait allumer comme ça. C'est pas plaisant. On aurait aimé qu'elle dise merci monsieur, c'est sympa. Merci de m'avoir mis le bassin tout à l'heure parce qu'on lui a mis le bassin. On l'avait pas véritablement négligé. Tout ce que la société ne veut pas voir ou écouter finisse par dériver lentement mais sûrement aux urgences. On voit pas les gens qui sont dans une situation difficile, délicate, les sans-papiers, tout ça. Les gens qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à trouver leur repère dans cette société qui va tellement vite. Donc leur seule planche de salut revient, c'est les urgences. Il a mal, il vient aux urgences. Il a besoin d'assistance sociale, il vient aux urgences. Il est en rupture de traitement parce qu'il n'a pas pu en avoir à temps, il vient aux urgences. C'est une espèce de siphon qui draine tout ce que la société ne veut pas voir.
Areski, vous êtes infirmier depuis combien de temps ?
15 ans.
Et ici, à De La Fontaine ?
À De La Fontaine, secteur public, public, pour la République. C'est que pour la République.
Je vais chercher des petits chaussons pour vos pieds. Allez-y.
Allez.
Attendez. Il y a la paire.
Ah oui.
Eh oui. On y va. Hop.
Allez-y. J'attends mon mari.
Oui, c'est ce qu'ils essaient de faire.
J'ai peur qu'ils ne viennent
pas. Non, vous inquiétez pas. Ils sont en train de tout faire pour contacter votre famille. Hein ? Ça va aller, on va s'en occuper, d'accord ? Fumez votre petite cigarette.
Auria, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qu'on suit depuis tout à l'heure ?
Oui.
Vous êtes médiatrice ?
Oui.
Ça consiste en quoi ?
Le poste de médiatrice a été créé il y a un peu plus d'un an et demi suite à des problèmes d'agression, de violence, de tension. Et donc, dans un premier temps, il y a eu des vigiles. Et ensuite, se sont dit qu'il fallait des médiateurs et médiatrices issus du milieu professionnel qui seraient plus à même de rentrer en contact avec nos usagers, de faire le lien entre les usagers, les patients, les médecins, les paramèdes. Voilà, comme ça, les collègues, elles sont aux soins, elles n'ont pas le temps de répondre à toutes les demandes des patients. Essayer de les soulager, elles, de temporiser quand il y a des patients qui en ont marre d'attendre, qui perdent leurs patients, justement.
À la base, vous êtes aide-soignante ?
Aide-soignante, oui.
D'accord. Est-ce que vous êtes en grève, Auria ?
Je suis en grève parce que il y a des difficultés réelles. Les passages aux urgences explosent, les médecins de ville désertent le département. Donc une fois qu'ils ont leur clientèle, ils n'en prennent pas d'autres. Il n'y a plus de visites à domicile. Je connais quasiment plus de médecins qui se déplacent à domicile.
Comment on en sort de ce mouvement de grève ? Parce qu'il dure depuis plus de 6 mois. Le gouvernement a lâché un peu de lest, mais reste ferme. Pas d'ouverture de lit. Pas d'augmentation des effectifs, donc vous pensez que ça peut durer encore longtemps, ce mouvement de grève ?
Je pense que la seule façon d'en sortir, c'est un vrai dialogue avec tous les professionnels de santé. Maintenant, se dire et croire qu'on va obtenir tout sur tout, il y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Je suis consciente des difficultés, il n'y a pas que nous, hein. Il y a l'éducation nationale, il y a la police, il y a tous les services publics qui sont en souffrance. Hein. Les pompiers, hein, on le voit, ça éclate d'un peu partout. Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion générale sur quelle société on veut, quelle prise en charge on veut pour nos malades, pour nos personnes âgées. Et moi, je pense que la grandeur d'un pays, sa valeur et sa fierté, c'est comment il prend en charge et traite ses personnes âgées.
Donc Tatiana, que l'on suit, vient de pousser un lourd brancard sur lequel il y a une dame. Et elle va lui faire un bilan sanguin.
santé, là?
Ça va.
Ça va, ça va mieux que tout à l'heure?
Oui, déjà.
Ouais, d'accord. On va essayer, ma belle, hein, mais vos veines, elles sont un peu sinueuses, hein, un peu fines. Je vais faire ce que je peux pour essayer de pas trop vous faire mal. J'y vais, ma belle, hein. Respirez bien. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Oui, ça, la main, c'est pas...
Aïe, 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 aïe.
Excusez-moi, ma belle. Attends, c'était sûr, ça. Ouais. Je suis désolée. J'ai fait ce que je pouvais. Vous me pardonnez? Vous me pardonnez?
Oui.
D'accord. Bon, c'est bien. Je suis contente.
Tatiana, donc vous êtes infirmière depuis un bout de temps ici à l'hôpital de La Fontaine. La ministre de la Santé a fait des annonces, quand même quelques annonces, notamment une prime pour les infirmières d'une centaine d'euros. Ça suffit pas pour vous?
Alors c'est une prime pour le personnel des urgences, c'est une prime de risque entre guillemets. Et ensuite non, parce qu'en fait on est l'un des pays les plus mal payés au niveau de la santé. Et on n'est pas reconnu. Et du coup, on arrive à un moment où, on a envie de manger. Sincèrement, la vie est de plus en plus chère. La vie est de plus en plus dure. Les urgences, c'est un microcosme de la société. Donc, tout se mêle.
Vous êtes payé combien, vous, en net par mois?
1007 pour 8 ans d'ancienneté. C'est pas assez. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Je ne vais pas vous faire un discours humaniste, uniquement humaniste. Non, au bout d'un moment, tout travail mérite salaire. Il faut nous payer en conséquence. Voilà.
Quand vous parlez de vos fins de mois difficiles, finalement, ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que disent les Gilets jaunes, ce qu'ils ont exprimé tout au long de l'année.
Tout à fait. Comme je vous ai dit, hein, en fait, au final, on ressemble à la société, on est la société. Donc, ce qu'ils demandent, ça nous ressemble aussi. Maintenant, c'est vrai que nous, on travaille dans la santé, donc c'est un peu plus spécifique, mais on a un combat qui est quasi similaire. Et vraiment, ce qui serait génial, ce serait une convergence des luttes. Et là, c'est au top.
Il y a longtemps, je vais passer, ça prend plus d'une heure.
Ah oui, mais ça, c'est pas notre sort à la radio et d'autres personnes.
Mais je souffre,
là. Là, je prends un patient en charge et s'il n'y a toujours pas de brancardie, je les rappelle. D'accord?
D'accord, c'est gentil.
Mais vous inquiétez pas, on ne vous dit pas.
Merci.
Mathieu, vous essayez quand même de trouver du temps pour parler aux patients?
Il faut, parce que vous voyez, si on ne leur parle pas ou si on ne passe pas les voir, ils pensent qu'on les oublie ou qu'on ne veut tout simplement pas s'occuper d'eux. Toujours essayer de trouver un peu de temps pour essayer d'expliquer pourquoi ils attendent ou juste tout simplement les écouter.
Bonjour monsieur.
Vous voulez m'interviewer?
On est journaliste pour la radio France Inter et on fait un reportage sur les urgences, la grève au service des urgences.
Oui. Oh, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et vous savez, je suis un habitué ici et là je suis tombé. Voilà mon histoire. L'histoire d'un vieux monsieur qui tombe et qui croit, je crois que je vais être obligé d'aller en maison de retraite, en EHPAD, enfin je sais pas où. Parce que ça fait déjà, je tombe, alors c'est embêtant ça. Mais par contre, vous voyez, ils sont en grève, j'ai eu l'occasion de les voir et tout. Hein. J'ai même eu une belle histoire. Je me suis disputé avec une infirmière. Hein. Et puis, j'avais des regrets de m'être disputé parce que je l'avais vu travailler. Il marchait pas, il courait. Je suis resté 11 heures, je me suis couché à 2 heures du matin. Vous vous rendez compte? 11 heures, j'étais sur un lit, comme ça, à attendre.
Un brancard. Ça, c'était quoi?
Il y a 4 mois.
Ici,
oui. Alors, je me suis fâché avec l'infirmière. Et puis, j'ai regretté, alors, quand on m'a raccompagné dans le service transitoire, j'ai dit que j'étais contrarié de m'être disputé avec cette infirmière que j'ai vue travailler, qui travaillait très bien et tout. Et puis, celui est venu à ses oreilles. À 2h30 de l'an, elle est venue toquer à ma porte. Elle est venue m'embrasser. Elle m'a dit, je suis venue parce que j'avais peur que vous passiez une mauvaise nuit. Elle est pas belle, mon histoire. Voilà ce que je voulais dire sur le personnel.
Vous êtes Valérie?
Oui, c'est ça. Enchantée.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement, Valérie?
Moi, je suis cadre de santé.
Donc, je suis, comme on dit, la surveillante des infirmières et des aides-soignantes, tout ce qui est paramédicaux.
Vous gérez tous les paramédicaux?
Les paramédicaux, mais il n'y a pas que les paramédicaux, il y a aussi les ASH, c'est-à-dire les femmes qui font le ménage, et puis les brancardiers.
Le personnel paramédical est en grève depuis juin.
Le 6 juin, exactement.
Depuis le 6 juin. Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Est-ce que vous-même, vous pouvez faire grève? Est-ce que vous faites grève?
Moi, je suis en grève. Mais on est 3 cadres au sein des urgences, nous sommes en grève. Depuis le 6 juin, nous sommes aussi assignés. Ce qui est un peu ridicule, c'est que nous, c'est nous qui faisons signer les assignations, donc je signe ma propre assignation.
Le matin, vous vous déclarez gréviste et vous signez votre propre assignation.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est une question de rémunération trop faible?
Moi, je sais qu'une infirmière est très mal payée, puisque en étant infirmière avant, et même en étant cadre, on est très mal payée.
Vous par rapport êtes payée à... combien?
Moi, j'ai 90 euros en plus parce que je suis cadre. Quand vous passez votre diplôme cadre, vous avez 40 euros en plus parce que vous avez votre diplôme cadre, plus 90 euros. Donc, vous voyez.
Donc, par mois, en net, ça fait à peu près?
Après, nous, c'est en fonction des échelons. Ça fait 20 ans que moi, je suis à l'hôpital. Donc, j'ai monté d'échelons. Donc, voilà. Après, nous, il faut compter à peu près 2200 euros par mois.
20 ans d'ancienneté et vous gagnez 2200 euros net par mois.
À peu près par mois, ouais. C'est pas énorme. Il faut savoir que... les agents, eux, ils ont leurs horaires. Ils arrivent à 7h, ils vont s'en aller à 14h30. Moi, j'arrive à 6h30 du matin. Et depuis le début de la semaine, je pars à 18h. Et il faut savoir que sur notre planning, on est quand même noté 7h, 14h50.
Et vous êtes payé en heure sup après?
Pas du tout. Donc le cadre sait quand il arrive, c'est pas quand il part.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Nous sommes samedi. C'est une journée traditionnellement plus chargée que les autres. Géraldine Allot va retrouver le docteur Oléa, l'un des médecins des urgences de l'hôpital de La Fontaine. Une centaine de personnes travaillent dans le service et parmi les 27 médecins, 3 seulement ont des diplômes français. Autant dire que sans les médecins à diplôme étranger, ce service, comme tant d'autres en France, ne fonctionnerait tout simplement pas.
Bonjour.
On pourrait croire qu'une certaine quiétude règne le samedi à l'hôpital. Il n'en est rien, car aujourd'hui, des travaux font résonner les murs.
Ils sont en train de percer où, là?
Au sous-sol.
Docteur Oléa, donc c'est une garde qui commence bien avec du bruit de travaux.
Vraiment, c'est une garde, ça commence bien. Il y a des travaux dans l'hôpital, ça peut faire passer les lignes électriques. Donc, c'est difficile d'ausculter les malades avec du bruit comme ça.
Vous ne pouvez pas entendre ce qu'il y a dans le stéthoscope?
On l'entend et ce bruit, et donc il y a un bruit supplémentaire, quoi.
Comment c'est en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens aux urgences ou est-ce que c'est plutôt calme comme matinée?
La matinée est un peu agitée parce que hier c'était la fête de l'humain. Il y a eu les malades qui sont restés dans la nuit, les patients alcoolisés, les cas de traumatisme qui sont restés aux urgences. Donc on est en train de gérer ces malades.
J'attends pour faire une radio en fait. J'ai juste l'épaule déboîtée, sauf qu'ils ne comprennent pas que j'ai le bras complètement engourdi et que c'est trop douloureux. Ah, ça bouge. Écoutez, ça bouge, ça fait très douloureux. Ils ne peuvent pas me laisser comme ça là.
Vous appelez, mais
s'il vous plaît.
De courir derrière lui, c'est pas normal.
D'accord, attendez.
Ça devient compliqué chez vous. Là.
Attendez, je vais le regarder.
D'accord. Non, vous dites que vous êtes en grève, mais vous êtes bizarre. Hein.
Ça
n'a
rien à voir. On est en grève parce qu'on manque de personnel, on manque de moyens. C'est pour ça qu'on est en grève. C'est pas la grève.
Ça devient comme chez nous.
C'est pas la grève.
Ça devient comme chez nous. Vous parlez entre vous, la rigolade.
Entre vous de quoi? Monsieur, c'est parce que vous me voyez en train de noter les dossiers des patients avec le sourire à ma collègue, vous considérez que l'on ne travaille pas?
Juste pour me faire patienter, je suis rentré, j'ai resté 45 minutes ici devant dans les chambres, j'ai fait une sieste.
Non.
Et là, j'ai fait la radio, je vais attendre encore 45 minutes.
On fait comme on peut, monsieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. On fait comme on peut. Vous n'attendez pas parce qu'on est en grève, d'accord? On est en grève parce que vous attendez. C'est parce qu'on n'a pas assez de personnel, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et c'est pour ça, monsieur, qu'on est en grève. Donc vous attendez pas parce qu'on décide de rigoler près de l'écran. Vous attendez pas parce qu'on a décidé on est en grève et qu'on veut rien faire. C'est pas pour ça. Alors battez-vous avec nous, monsieur. On a une pétition à l'accueil, signée, qu'on puisse montrer à la direction. Regardez, les gens, ils attendent, ils en ont assez. Nous, on n'en peut plus, voilà. Signez-la, monsieur, c'est comme ça que vous pouvez nous aider. Pas en nous reprochant de faire le maximum.
Comment vous vous appelez ?
Dominique.
Vous êtes aide-soignante ?
Oui.
Là, ça n'arrête pas. Hein. On est samedi après-midi, on vous voit courir partout.
J'ai chaud, je cours partout, exactement. Non, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de monde, donc il faut essayer d'aller vite. Parce que ben, plus ils attendent, plus ils s'impatientent et plus ils s'énervent et après les esprits s'échauffent.
Vous entendez tout à l'heure remettre à sa place un jeune homme qui s'impatientait.
Ça, c'est des choses qu'on est obligé de faire assez régulièrement, malheureusement, parce que voilà, les gens ils arrivent aux urgences, ils veulent être pris en charge en 30 minutes, que tout se passe vite. Sauf que ben, on a des urgences, des priorités et que voilà, la patience ne fait pas forcément partie des qualités de nos patients, malheureusement. Mais bon, nous aussi, c'est pas toujours évident de gérer un voyer, là encore partout. On essaie toujours d'être respectueux, poli et de leur expliquer la situation. Bon, généralement, quand on leur parle, ça marche plutôt bien jusqu'à un certain point. Donc voilà.
Yasmina, vous êtes infirmière ici depuis 3 ans aux urgences et vous êtes aussi la représentante du collectif Interurgence qui a déclenché le mouvement de grève. Vous n'avez pas peur que le mouvement s'enlise ? Ça fait 4 mois que ça dure ?
Non, pas vraiment là pour le coup. Le constat qu'on fait nous, il est partagé par nos collègues des services hospitaliers, des EHPAD, de la psychiatrie, même des pompiers. Enfin voilà, c'est un constat global qui se fait et... Je pense pas qu'il y ait de risque d'enlisement pour l'instant parce que justement ça croît. Cet été, on pariait pas particulièrement sur le fait qu'on réussisse à passer l'été et au final on a réussi à doubler nos services en grève finalement. Les perspectives de généralisation sont plutôt commencent à se confirmer. Donc voilà, non, je pense pas.
C'est la première fois que les paramédicaux se mobilisent. D'habitude, aux urgences, quand il y avait grève, c'était les médecins qu'on entendait. Cette fois-ci, c'est les paramédicaux, ce sont les aides-soignants, les infirmières.
Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'effectivement, ce n'est pas les médecins qui sont à l'origine du mouvement et c'est des paramédicaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Et effectivement, il y avait une certaine timidité sociale. On est issus de... Ici, par exemple, à Saint-Denis, on est le reflet de notre territoire. Les paramédicaux, ils sont issus de ces territoires-là. Et on n'a pas l'habitude, ouais, de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et surtout qu'on trouve ça intéressant, en fait, que notre analyse du système actuel de santé et de ses dérives soit intéressant. Donc ça fait du bien. Et du coup, même si là, ce qu'on gagne, c'est pas adapté, c'est plutôt rare de les voir reculer et de les voir trembler un petit peu. Donc nous, ça nous fait un peu de bien aussi, de se dire que bah eux, jusqu'à présent... ils n'étaient pas confrontés à nos difficultés. Nous, on subissait aussi leurs décisions qui sont prises de loin. Et nous, on faisait le tampon, en fait, sur des décisions qui ne nous appartenaient pas. Et là, pour le coup, ça fait du bien qu'ils sentent un peu la chaleur monter aussi.
Pour travailler, des moyens, pour travailler, ça finit.
Il est 21h30, donc nous sommes samedi soir. L'équipe de jour va partir pour laisser place à l'équipe de nuit. Et nous allons voir si le service des urgences s'est un peu désengorgé par rapport à cet après-midi.
Vous voulez que je regarde les radios ou pas?
Ben, regarde-moi, s'il vous plaît,
parle-moi,
qu'est-ce qu'il y a?
Alors, vous calmez.
Ouais.
Vous ne parlez pas comme ça, sinon vous sortez, d'accord?
Tu parles pas comme ça?
Voilà.
Voilà,
comme ça, tout est fait, nickel.
C'est bon,
ouais,
on part.
Dominique, juste avant que vous partiez,
oui.
Une longue, longue, longue journée.
Oui, une longue garde, en effet. Mais il faut faire avec le personnel qu'on a, avec le dynamisme qu'on essaie de garder à chaque fois, le sourire. Mais c'est pas toujours évident.
Après une journée comme celle-ci, où il y avait énormément de patients, comment on se sent ? Comment vous vous sentez ?
Fatiguée. J'ai chaud, je suis fatiguée, j'adore rentrer chez moi, retrouver mes enfants. Il y a eu un accrochage avec un ou deux patients, donc parfois ça peut rester un petit peu en tête, mais ça va. Là où c'est plus difficile, c'est quand les patients se sont montrés agressifs physiquement, menaçants, ou vraiment il y a eu des insultes. Là, c'était de l'impatience de la part des patients. Du coup, on peut temporiser ça, on peut calmer, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où vraiment, le rapport avec les patients peut être compliqué. Du coup, oui, ça peut rester à la maison. Enfin, mes enfants m'ont déjà dit « Maman, maman, t'es à la maison, ça y est, c'est fini ». Parfois, c'est un peu difficile.
Merci.
Je vous en prie.
Bonne nuit alors.
Merci bien.
Au revoir.
Les urgences à bout de souffle, c'est un reportage de Géraldine Allot. Prise de son, Hélène Langlois et François Rivalan. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Dimanche prochain, reportage dans les cuisines où sont fabriqués les repas de nos enfants.
Un jour, ils ont fait de l'omelette avec une poudre. C'était dégoûtant.
On aurait dit de l'éponge.
C'est quoi ces omelettes? Enfin, je sais pas, on fait des omelettes avec des œufs.
Julie Pietri nous fera visiter les coulisses des cantines scolaires.
Ça vomir, quoi.
À la semaine prochaine. Thank you.